Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Le Saint-Siège s'active autour de la crise syrienne. Suite à l'appel du pape de dimanche, la secrétaire d'État a invité les ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège à une conférence de presse sur la question. L'appel du pape à se mobiliser pour la Syrie, très entendu, nous entendrons l'évêque de Nantes qui appelle les chrétiens de son diocèse à se joindre à la prière pour la paix. Et puis un ancien ambassadeur de France près le Saint-Siège nous parlera de l'influence de la diplomatie vaticane. Nous vous présenterons aussi une nouvelle communauté interreligieuse créée en Suisse et entendrons la voix de l'église brésilienne qui s'élève contre l'insécurité dans le pays. Soyez les bienvenus dans ce magazine. La Syrie est toujours au cœur de l'actualité internationale ce mardi. L'appel à la paix lancé dimanche par le pape François connaît un fort retentissement. L'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte a ainsi exprimé son adhésion active à la journée de prière et de jeûne pour la paix en Syrie qui aura lieu samedi prochain. Dans un communiqué, l'organisme des évêques catholiques de Terre Sainte a exprimé le souhait que chaque ordinaire de son diocèse, éparchie ou exarcat, que chaque curé dans sa paroisse et avec ses paroissiens puisse organiser la journée comme mieux il convient, dans l'espoir que le bruit des prières montant de nos lèvres puisse couvrir le bruit des tambours de guerre. Dans beaucoup de diocèses à travers le monde, et en France en particulier, les évêques ont relayé l'appel du Saint-Père pour la journée du 7 septembre. C'est le cas notamment à Nantes, où Mgr Jam demande aux catholiques de s'impliquer par l'organisation de rassemblements ou de temps de prière. Le reportage d'Anthony Torzek.
Veillée de prière, messe pour la paix, rassemblement silencieux, de nombreuses initiatives sont annoncées dans les diocèses français pour la journée de prière pour la paix en Syrie. Exemple, le diocèse de Paris s'unira à la démarche du pape François par une veillée de prière et de jeûne à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. À Marseille, Mgr Pontier présidera une messe pour la paix en présence des représentants des communautés catholiques de rite oriental du diocèse. D'autres évêques ont également lancé un appel à tous les fidèles et les habitants de leur diocèse. C'est le cas de Mgr Raffin à Metz et Mgr Jam à Nantes. Chacun dans son diocèse, dans un communiqué, il demande de s'associer à cette démarche du Saint-Père. Mgr Jean-Paul Jam, l'évêque de Nantes.
J'ai voulu relayer cet appel ici en Loire-Atlantique en demandant à toutes les paroisses, à tous les mouvements, à tous les services du diocèse pour le week-end prochain à s'associer à cette démarche-là en trouvant l'initiative qui conviendra dans les différentes paroisses. Donc ça peut être soit un rassemblement, ça peut être une veillée de prière, une veillée d'adoration, ça peut être aussi une intention de prière dans la célébration dominicale.
Des rassemblements, des initiatives symboliques ou qui peuvent déboucher réellement sur un acte de paix?
Eh bien, c'est notre foi. C'est que si nous prions le prince de la paix, nous voulons le faire non pas en pensant que ça nous tombera comme ça, en pensant que ça suscitera autour de nous et peut-être parmi nous des artisans de paix. Ce peut être des démarches qui seront faites par des hommes ou femmes politiques engagés dans la vie de la cité. Ce peut être aussi des démarches qui seront faites par des associations qui sont en charge de la solidarité avec des gens en difficulté. Ce peut être aussi, d'une manière plus concrète aussi, pour nous, chrétiens catholiques, d'établir des liens plus fraternels, de solidarité avec nos frères et sœurs chrétiens qui sont en difficulté là-bas, en Syrie en particulier. Nous y sommes d'autant plus sensibles qu'ici, en Loire-Atlantique, il y a un certain nombre de réfugiés, que ce soit d'Irak, de Syrie ou d'Égypte, puisqu'il y a également des Coptes, et donc ils sont très proches de nous. C'est l'occasion de nous manifester près d'eux, c'est l'occasion aussi de manifester notre solidarité à l'égard de nos frères chrétiens.
Par leurs appels lancés dans leur diocèse, les évêques français espèrent voir fleurir des initiatives pour un seul but, promouvoir la paix, ce don éminemment précieux qui doit être promu et préservé, comme l'a affirmé le pape François. À Nantes, Anthony Torzek pour Radio Vatican.
Et suite à l'initiative de prière et de jeûne lancée par le pape, c'est toute la diplomatie vaticane qui s'active. Les préoccupations du Saint-Siège sont grandes face à la spirale infernale de la guerre en Syrie. Preuve de l'importance de cette crise, la secrétaire d'État a invité tous les ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège à une conférence de presse qui se tiendra jeudi matin pour informer le corps diplomatique sur le sens de cette initiative voulue par le pape. Le père Federico Lombardi, porte-parole du Saint-Siège, a précisé que la secrétaire d'État avait aussi informé les conférences épiscopales et les instituts religieux, de même que les dicastères compétents fait parvenir un message sur cette journée de samedi aux responsables des autres églises chrétiennes et des autres religions.
«
La diplomatie vaticane se fait souvent dans l'ombre, mais ne ménage pas ses efforts lors des graves crises. Elle est reconnue à sa juste valeur dans le concert des nations, comme nous le rappelle Pierre Morel, ancien ambassadeur de France près le Saint-Siège.
Le Saint-Siège souligne la gravité des circonstances, comme les prédécesseurs l'ont fait. Je pense à la vie du pape Benoît XVI, je pense au moment de la guerre civile au Liban, de l'effort extraordinaire fait par Jean-Paul II, précisément pour la sauvegarde du Liban. Pour moi, on est dans ces registres-là et ça correspond bien à la gravité extrême de la situation.
C'est une diplomatie qui a les moyens d'infléchir les positions des parties prenantes.
Une diplomatie qui a en propre d'envoyer des signaux forts dans des moments graves. Je l'ai connu à l'époque, il y a 10 ans, au moment de la guerre d'Irak. Oui, il y a cette guerre dont on a vu les suites a eu lieu. Mais on avait vu également le pape à l'époque envoyer ses émissaires, le cardinal Lagy à Washington, le cardinal Chegaray à Bagdad, qui avait rencontré Saddam Hussein en personne. Bon, ça n'est pas une diplomatie dont les résultats sont garantis. Aucune ne l'est, aucune. Mais simplement, les moyens qu'elle emploie sont des moyens qui font appel à toutes les ressources morales et qui essayent d'orienter une angoisse et une inquiétude réelle dans les opinions pour peser sur l'attitude des dirigeants et encore une fois lancer des signaux d'alerte qui mettent en cause les ressources morales de la personne. La diplomatie, c'est fait de ces choses-là aussi, mais simplement elle est couplée avec différentes ressources quand ça concerne les États traditionnels. Le Saint-Siège fait plus appel à la dimension morale, spirituelle. C'est dans son rôle, et ça depuis des siècles.
Elle fait un peu figure de conscience morale de la diplomatie internationale, cette diplomatie vaticane.
Oui, c'est un donneur d'alerte. Le Saint-Siège mobilise. Je prends un exemple complètement différent, mais qui est du même ordre. L'endettement dans le tiers-monde. La remise des dettes autour de l'année jubilaire. Là aussi, la puissance économique ou financière du Vatican est limitée, ça n'est pas son rôle, mais en soulignant que l'endettement avait atteint des proportions insupportables pour certains pays et que ça ne contribuait qu'à les enfoncer un peu plus, eh bien, cette dimension plus morale, cet appel à une prise de conscience, a eu un effet sur une campagne de remise de dette qui s'est prolongée dans le cadre des sommets du G7 à l'époque. Bon, sur une échelle de mesure, on peut toujours débattre, mais il est évident qu'il y a une démarche spécifique du Saint-Siège que l'on reconnaît dans des circonstances graves, plus particulièrement quand elle est, je dirais, plus discrète et plus en retrait dans les circonstances plus normales.
La voix du Vatican porte au-delà des États purement chrétiens et catholiques.
Je crois que le nombre des États ayant noué des relations diplomatiques avec Saint-Siège pendant les pontificats de Jean-Paul II a doublé, voire triplé. C'est tout simplement que beaucoup d'États n'ayant pas de relations historiques avec le Saint-Siège ont éprouvé le besoin d'établir des relations. Donc ça n'est pas une diplomatie circonscrite à une zone particulière, occidentale ou autre. Elle a une dimension universelle et depuis longtemps. Je crois qu'on retrouve là une caractéristique bien établie qui est d'être un travail en faveur de la paix, du dialogue, de la réconciliation. C'est un travail ardu, mais dans lequel le rôle spécifique du Saint-Siège est reconnu.
Des propos recueillis par Olivier Tosseri. Et la veillée de samedi soir est actuellement préparée par Mgr Guido Marini, le maître des célébrations liturgiques pontificales. Les temps forts de cette veillée seront la récitation du chapelet, l'exposition du Très-Saint-Sacrement avec l'adoration, ainsi qu'une méditation du pape et sa bénédiction. Les participants pourront également se confesser dans des confessionnaux installés sous la colonnade de la place Saint-Pierre. Et la crise syrienne, il en sera question également à Amman, en Jordanie, où s'est ouverte ce mardi une rencontre des chefs des églises moyennes orientales. Pendant 2 jours, une 60aine de patriarches, d'évêques et de prêtres représentant les chrétiens d'Orient doivent discuter des différents défis de la région. Des défis qui ne manquent pas, que ce soit dans le chaos syrien, la crise égyptienne ou la dégradation de la sécurité en Irak. Cette rencontre a été promue par le roi Abdallah II de Jordanie, que le pape a reçu au Vatican la semaine passée. Parmi les invités présents dans la capitale jordanienne, le cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Comme tous les matins, le pape a célébré la messe dans la chapelle du palais Sainte-Marthe. Jésus n'a pas besoin d'une armée pour chasser les démons, il n'a pas besoin de l'arrogance ni de la force de l'orgueil, a-t-il dit. Là où se trouve Jésus, il y a toujours l'humilité et l'amour. Tels sont les propos de François tirés de son homélie ce mardi matin. Le pape qui a mis l'accent sur la distinction entre la lumière tranquille de Jésus qui parle à notre cœur et la lumière du monde, une lumière artificielle qui nous rend arrogants et orgueilleux. L'identité chrétienne est une identité de la lumière et non pas des ténèbres, a souligné François. La lumière du Christ n'est pas une lumière de l'ignorance, mais une lumière de sagesse et de connaissance. C'est une lumière qui s'offre et procure la paix. Promouvoir le respect et la compréhension mutuelle entre les trois religions monothéistes, tel est l'objectif que se sont fixés de jeunes chrétiens, juifs et musulmans, avec la création d'une communauté interreligieuse à Beausset, en Suisse. L'initiative, lancée dans le cadre d'un cours d'été qui s'est achevé le 30 août, est organisée conjointement par le Conseil œcuménique des Églises, via son programme pour le dialogue interreligieux et la coopération, ainsi que la Fondation pour l'entreconnaissance et la Fondation Racines et Sources. Il s'agit pour les participants de créer un espace de débat propice à l'échange et à la connaissance de l'autre et qui s'attache à dépasser les stéréotypes liés à l'appartenance religieuse. Les explications de Hafid Wardiri, intellectuel musulman, il est le directeur de la Fondation de l'entreconnaissance.
Dans le cadre de ce que nous faisons avec l'Institut Beausset et le WCC, comme ils disent, le Centre œcuménique des Églises à Genève, c'est de faire venir en été des étudiants un peu de tous les coins du monde, juifs, chrétiens et musulmans, afin qu'ils puissent vivre ensemble et que, durant le temps qu'ils passent ici, chacun, au cours d'une semaine, explique aux autres ce qu'est sa foi et comment il la vit.
Qu'est-ce qui différencie cette initiative de toutes celles qui peuvent exister déjà ?
Ben écoutez, nous, on travaille sur le terrain, sur le réel, sur l'humain, sur l'être, dans sa relation à l'être, dans la proximité de la vie. Ça n'est pas simplement du produit cérébral, c'est du cérébral et de l'expérience, c'est du quotidien. Quand ces jeunes arrivent, c'est assez impressionnant quand on les reçoit à l'aéroport ou quand on les voit pour la première fois à l'institut où ils vont vivre et étudier ensemble. Ben on voit que chacun, de là où il vient avec les préjugés qu'il a sur l'autre, qu'il ne connaît pas. Et petit à petit, justement, à partir de cette proximité, eh bien, ils apprennent à se poser des questions, à rire ensemble, à manger ensemble. Et petit à petit, justement, ils vont aller au cœur de chacun d'entre eux. Et c'est là où on se rend compte en définitive que l'être humain a des compétences et des capacités à bien vivre avec l'autre, contrairement à ce qu'on voit justement dans ce qui se passe dans différentes sociétés.
Dans un contexte général de sécularisation de nos sociétés occidentales, où le fait religieux est perçu globalement de manière assez négative, est-ce que selon vous, ce genre d'initiative est appelé à se développer et à s'accroître ?
Non seulement elles doivent se développer et s'accroître, mais prendre leur place dans ce que l'on appelle la société culturelle ou sociale. Nous n'avons pas à vivre ou à accepter à vivre cette marginalité qu'on veut nous imposer. Nous ne sommes pas des êtres marginaux, nous sommes au contraire des gens qui veulent aller vers les autres et au nom de rien d'autre que de l'humanité que nous avons en commun. Ce qui est important pour nous, c'est de travailler sur ce que nous avons en commun. Et ce que nous avons en commun, c'est cette fraternité adamique, cette fraternité abrahamique, cette fraternité humaine. Et donc sur une base comme celle-là, on peut construire une relation de confiance. Et sur cette base-là, après, on peut faire des approches sur les différentes différences. Et on peut s'enrichir de celles-ci.
Les participants à ce cours d'été ont notamment insisté sur le fait qu'il ait été possible de débattre de sujets sensibles. Pouvez-vous me dire de quoi exactement est-ce que vous parlez pendant ces cours d'été ? Quels sont les sujets abordés et quelles sont les réactions qu'ils peuvent susciter ?
Vous savez, cette rencontre existe depuis 2007. Et seulement l'année dernière, nous avons fait un break, comme ils disent, un temps d'arrêt, et nous avons repris cette année. Chaque année, il y a un thème. Le thème de cette année, le thème principal, c'est construire une communauté interreligieuse. Mais il y a des thèmes chaque année qui sont développés. Le thème de cette année, c'est différentes croyances, une humanité commune, justice et paix dans le dialogue interreligieux. À partir de ce thème-là, on peut absolument aborder tout. Quand on parle de justice, on peut absolument aborder toutes les questions qui chagrinent, qui posent problème. Et chacun y va avec une grande sincérité. Il n'essaye pas d'échapper au réel. Nous parlons du réel, nous parlons de l'idéal que nous voulons atteindre. Mais les questions ne sont pas des questions de défi. Ce sont des questions qui sont posées par des gens qui veulent savoir. Et à partir du moment où le savoir et la quête de la connaissance sont mises en exergue, à ce moment-là, il y a, comment dirais-je, une ambiance qui est une ambiance positive, qui est une ambiance de paix. Et chacun parle de ce qu'il a vécu et de ce qu'il aimerait vivre, et plus encore de ce qu'il voudrait vivre avec tous les autres dans le respect de ce qu'ils sont. Donc toutes les questions ont été abordées, par exemple même cette année, souvent ces questions de la femme en islam et d'autres, bien d'autres à cause des actualités qui se déroulent devant nous tous les jours, eh bien ces questions sont posées et les réponses sont apportées. Et le travail sur ces réponses se fait à travers justement des présentations, d'analyse et ainsi de suite, qu'on se partage et on s'enrichit mutuellement avec les réflexions des uns et des autres. Non pas en pensant que c'est le juif ou le chrétien qui l'a dit ou le musulman, mais simplement que l'un comme l'autre est là pour apporter ce qu'il pense être utile à tous et à toutes.
Des propos recueillis par Manuela Affi. Changement de décor pour finir ce magazine. Nous partons pour le Brésil où l'Église élève la voix contre la violence. L'évêque auxiliaire de Sao Paulo, Mgr Milton Kenan Jr., a dénoncé une insécurité grandissante et généralisée dans la mégapole. Une insécurité patente qui a conduit à l'annulation de messes et de réunions dans quelques paroisses de la ville et de son agglomération en raison du couvre-feu instauré dans certains quartiers à risque. Je vous propose de réécouter le père Michel Lemarchand de la Congrégation des Fils de la Charité. Il vit depuis 33 ans à Sao Paulo et confirme lui aussi cette recrudescence de violence.
À partir de 9h30 le soir, les gens ne peuvent plus sortir de leur maison. Et nous voyons cette insécurité déjà depuis un certain temps, mais en ce moment il y a un pic à cause de certaines organisations qui sont derrière aussi.
Et cette insécurité, comment se manifeste-t-elle concrètement?
Il y a divers types d'insécurité et de violence. D'abord, il faut quand même rappeler qu'il y a une violence familiale qui existe dans les familles et qu'on peut constater, nous, dans notre accompagnement pastoral, et une violence souvent un peu plus cachée, d'ailleurs. Et il y a la violence urbaine, malheureusement, habituelle, qui est le fait de personnes qui n'ont pas de repères et, par exemple, ont brûlé un bus près de notre maison. C'est un fait nouveau, habituellement, qui n'existe pas. Et puis alors, de fait, il y a des groupes organisés qui ont ces armements, et souvent ces groupes sont liés avec le trafic de la drogue. C'est des groupes qui attaquent aussi la police. Il y a eu des commissariats qui ont été attaqués avec des armes lourdes.
L'évêque de Sao Paulo parle d'un manque d'attention, d'un manque de politique publique. C'est là que le bât blesse. Est-ce que les autorités, l'État ne s'implique pas assez dans la lutte contre la violence?
C'est un problème un petit peu général. Et ce n'est pas uniquement un problème du gouvernement actuel. C'est un problème de société et des gens déracinés, des gens sans liens familiaux. Pour ce qui est de cette violence familiale ou urbaine dont je parlais. Alors maintenant, la violence organisée, du crime organisé avec derrière des trafics de drogue, alors là c'est autre chose qui ne dépend pas forcément du gouvernement comme tel. C'est une sorte d'armée pratiquement clandestine, on peut dire. C'est un petit peu autre chose. Mais je crois que le problème, il est surtout de société, à vrai dire. Les gens ont perdu leurs repères, la famille est déstructurée. Les communautés humaines sont démantelées petit à petit. Et puis il y a aussi cette idéologie dominante où, en fin de compte, l'autre est vu comme un concurrent qui nous menace. Je crois que c'est un ensemble de sociétés qui est beaucoup plus senti dans la grande ville, parce que la grande ville, c'est un rassemblement de personnes, en fin de compte, seules, qui ont perdu leurs liens familiaux, leurs racines. Je pense que c'est ce qui produit la violence.
Quelle parole peut apporter l'Église et comment est-ce qu'elle peut mobiliser efficacement les personnes en faveur de la paix?
L'Église a certainement un très, très grand pouvoir, on va dire. Je vois dans notre paroisse, nous réunissons environ 3000 personnes toutes les semaines. Alors évidemment, tout ce qui se dit peut aider les gens à choisir des chemins qui conduisent à la paix. L'archevêque de São Paulo a demandé à l'Église, justement, à tous ses niveaux, d'intervenir, de prier, bien sûr, pour la paix, parce que la paix est née d'abord dans le cœur des personnes, et puis elle se répand autour. Et alors, il y a donc la prière et aussi une certaine conscientisation pour que les gens puissent revoir leur manière de vivre en famille, de vivre en communauté. C'est tout un travail de civilisation, à vrai dire, que l'Église a, qui n'est assumé par aucune autre institution.
C'était le père Michel Lemarchand au micro de Manuela Affi. Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.